VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir, il est 18h30 en temps universel. Bienvenue dans cette édition du 16 mars 2020. Nathalie Barge à la présentation, voici les titres. 19 morts et plusieurs blessés au Nigeria dans l'explosion accidentelle survenue dimanche à Lagos. La République démocratique du Congo a expulsé plus de 1400 Burundais accusés de séjour illégal dans la région de Goma. Le Soudan a instauré l'état d'urgence sanitaire et fermé ses frontières dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus. Bruxelles propose d'interdire les voyages non essentiels vers l'Union européenne. L'Espagne va fermer ses frontières terrestres à minuit. Juste après le journal, ce sera l'actualité économique et des sports. Au Nigeria, au moins 19 personnes ont été tuées et des dizaines ont été blessées dans l'explosion accidentelle survenue hier matin à Lagos. Plusieurs bâtiments ont été détruits et Kabadou nous en dit plus.
Les services de secours avaient fait état dimanche d'au moins 15 morts et de nombreux blessés, mais le bilan devrait être beaucoup plus lourd, des victimes se trouvant encore sous les gravats. L'explosion survenue aux abords d'un aléoduc dans le quartier résidentiel d'Abouléado a détruit une cinquantaine de maisons, une église et des magasins. Un pensionnat pour jeunes filles où étaient scolarisés plus de 200 élèves a été soufflé par la déflagration, ressentie à plus de 15 km à la ronde. Des équipes de secours continuent à déblayer les décombres, a expliqué le gouverneur de l'État. Des efforts sont menés pour déterminer les causes de l'explosion qui a fait de nombreux sans-abri, a-t-il ajouté. Selon la compagnie pétrolière publique NNPC, le sinistre a été causé par un camion qui a heurté des bouteilles de gaz empilées dans une usine de traitement de gaz. Les explosions de camions-citernes et d'oléoducs sont fréquentes au Nigeria, premier producteur de pétrole du continent, avec près de 2 millions de barils par jour.
L'Assemblée nationale togolaise a levé l'immunité parlementaire de l'opposant Agbeyome Kodjo sur demande du procureur général qui souhaite le poursuivre pour atteinte à la sécurité de l'État. 80 députés ont voté pour par scrutin secret, 2 contre et 8 se sont abstenus. Monsieur Kodjo n'était pas présent dans l'hémicycle. Au cours de la même séance, l'Assemblée nationale a autorisé le procureur à entamer des poursuites pénales contre l'opposant togolais qui, en qualité d'ancien président de l'Assemblée, ne pouvait être poursuivi au pénal sans l'aval des députés. Le gouvernement suédois envisage d'envoyer jusqu'à 150 soldats au Mali afin de soutenir l'opération militaire française Takuba qui vise à réunir des forces spéciales de différents pays pour accompagner les forces locales au combat. Le gouvernement a décidé de soumettre un projet de loi au Parlement pour une participation suédoise au futur groupement de forces spéciales européennes initié par Paris, a annoncé le ministère des Affaires étrangères. Une mission de 4 chefs d'État ouest-africains se rendra demain mardi dans la capitale de la Guinée, pays en pleine crise politique, quelques jours avant la tenue prévue d'un référendum contesté sur une nouvelle constitution. La délégation de cette visite à Conakry sera composée des présidents du Ghana, de Côte d'Ivoire, du Nigeria et du Niger. La mission est mandatée par la CDAO qui avait annulé une mission fin février. La République démocratique du Congo a expulsé ce lundi plus de 1400 Burundais, d'après les autorités accusées de séjour illégal dans la région de Goma, dans l'est du pays. En fin d'après-midi, ils ont été conduits vers le port de Goma, où ils ont été embarqués à bord de 2 bateaux par la police et l'armée. Ils devraient être rapatriés au Burundi via le lac Kivu et la province voisine du sud Kivu. Ces immigrés agissent sous le label de la secte mystico-religieuse Ezebia, dissidente de l'église catholique burundaise, selon le communiqué de la présidence congolaise. Les gouvernements africains prennent des mesures drastiques pour contrer la propagation du nouveau coronavirus. La maladie touche désormais toutes les régions du continent. Le point avec Abdourahmane Dia.
Les autorités marocaines ont décrété la fermeture jusqu'à nouvel ordre des cafés, restaurants, salles de théâtre et de cinéma. Les mesures ne concernent pas les souks, les commerces et les locaux de vente de produits et de matières de première nécessité, ainsi que les restaurants qui livrent à domicile. Le Maroc, qui compte 29 cas confirmés, a aussi suspendu depuis hier tous les vols internationaux jusqu'à nouvel ordre, mais des avions spéciaux ont été autorisés pour rapatrier les touristes européens bloqués. L'Algérie a décidé de suspendre à partir de jeudi toutes ses liaisons avec l'ensemble des pays. C'est ce qu'a annoncé ce lundi son premier ministre Abdelaziz Djerad. Alger avait annoncé hier la suspension temporaire à partir de mardi de toutes les liaisons aériennes et maritimes avec la France, où est implantée une nombreuse communauté algérienne. 54 cas sont confirmés en Algérie. Au Sénégal, le président Macky Sall a annoncé la suspension de tous les rassemblements et la fermeture des écoles. Plusieurs événements religieux prévus ce mois ont été annulés ou reportés. Des mesures similaires sont aussi annoncées au Kenya, où 3 cas ont été recensés. Le président Uhuru Kenyatta a aussi encouragé le télétravail pour les entreprises qui sont équipées pour cela. L'Afrique du Sud a déclaré l'état d'urgence et fermé ses frontières aux citoyens des pays les plus touchés.
Par ailleurs, le Soudan, qui a enregistré un mort, a instauré l'état d'urgence sanitaire et fermé ses frontières.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La pandémie du Covid-19 continue de progresser sur la planète où près de 170 000 infections et plus de 6 600 morts ont été enregistrées dans 142 pays. Nouvel épicentre après la Chine, l'Europe prépare des mesures concertées. Ici aux États-Unis, le nombre de cas augmente également et la bourse accuse le coup. Claire Morin-Gibourg.
L'explosion du nombre de malades en Europe pousse les États à confiner leur population et fermer leurs frontières. Des restrictions qui s'ajoutent à une cascade de mesures prises dans les différents pays. Écoles et universités, restaurants, bars, discothèques, cinémas sont désormais fermés un peu partout. Les principales compagnies aériennes européennes ont annoncé une réduction drastique de leur offre, pouvant aller jusqu'à l'immobilisation de la quasi-totalité des avions. Un sommet extraordinaire du G7 est prévu ce lundi par visioconférence pour coordonner la lutte contre le coronavirus dans les domaines sanitaires, économiques, financiers et de la recherche sur un vaccin ainsi que des traitements. L'Italie a adopté aujourd'hui une enveloppe de 25 milliards d'euros pour soutenir les ménages et les entreprises. Les marchés boursiers ont vécu un lundi noir tétanisé par les craintes d'une récession mondiale. Seule la Chine semble avoir enrayé la propagation du virus, avec seulement 16 nouveaux cas lundi, dont 12 importés de l'étranger. L'Iran a annoncé son bilan journalier le plus lourd avec 129 décès. En Corée du Sud, un nouveau foyer de contamination lié à une église est apparu avec près de 35 nouveaux cas.
Par ailleurs, l'OMS a qualifié la pandémie de crise sanitaire mondiale majeure de notre époque. Bruxelles a proposé d'interdire les voyages non essentiels vers l'Union européenne. La Malaisie va interdire l'entrée des étrangers et les voyages de ses citoyens hors du pays. L'État américain du New Jersey impose un couvre-feu sur tous les commerces et déplacements non essentiels entre 20h et 5h. Le président allemand a appelé la population à rester à la maison. La Suisse passe en état d'urgence et interdit tout rassemblement. L'Ukraine ferme ses espaces publics et arrête les transports entre de nombreuses autres nouvelles mesures qui sont prises dans le monde. Les candidats démocrates à la présidentielle américaine Joe Biden et Bernie Sanders se sont affrontés hier soir lors d'un débat télévisé. Ils ont saisi l'opportunité pour proposer des plans de lutte contre la pandémie de coronavirus. Dividico revient sur les principaux sujets abordés.
Au cours du débat démocrate hier soir, Joe Biden et Bernie Sanders se sont vivement reprochés certains de leurs choix politiques passés, tout en dénonçant d'une même voix ce qu'ils ont présenté comme une mauvaise gestion du coronavirus par le président Donald Trump. Grand favori pour l'investiture démocrate, le candidat modéré Joe Biden s'est engagé pour la première fois à choisir une femme en tant que vice-présidente lors de l'élection présidentielle de novembre 2020 face au républicain Donald Trump. Son rival, nettement plus marqué à gauche, a lui aussi assuré qu'il choisirait une colistière. Dans le contexte de la pandémie de coronavirus, Sanders a mis en avant ses propositions en matière d'accès universel aux soins de santé. La crise sanitaire a ouvert et bouclé le débat entre les deux septuagénaires, désormais seuls en course pour décrocher l'investiture démocrate. Dès demain, mardi, les électeurs démocrates de l'Arizona, de la Floride, de l'Illinois et de l'Ohio vont se rendre aux urnes pour choisir leur candidat.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par Nani Talani.
Les autorités marocaines ont annoncé ce lundi la fermeture jusqu'à nouvel ordre des cafés, restaurants, salles de théâtre et de cinéma. Ces mesures drastiques sont censées aider à contenir la propagation du nouveau coronavirus. Elles concernent aussi les salles de sport, hammams, salles de jeux et terrains de proximité, précise le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Toutefois, ces dispositions ne concernent pas les souks, les commerces et les locaux de vente de produits et matières de première nécessité, ainsi que les restaurants qui livrent à domicile. Le taux d'inflation annuel a encore atteint le chiffre vertigineux de 500% en février au Zimbabwe. Le taux d'inflation en rythme annuel tel que mesuré par l'index des prix à la consommation s'élève à 540,16%, a annoncé l'Agence nationale des statistiques sur son compte Twitter. Le gouvernement zimbabwéen a annoncé la semaine dernière l'entrée en vigueur d'un nouveau système de fixation des parités monétaires afin de stabiliser le taux de change et par conséquent de réduire l'inflation, selon le ministre des Finances Ntuli Nkoubé. Pour terminer, l'économie soudanaise devrait se contracter de 1,2% cette année contre 2,5% en 2019, a déclaré le Fonds monétaire international dans un rapport. Une inflation élevée de 60%, une dépréciation continue du taux de change et des pénuries généralisées continueront d'aggraver les tensions sociales, a ajouté le FMI. Jonas Horner, analyste soudanais à l'International Crisis Group, se dit préoccupé par l'intense pression financière sur les ménages, les subventions de l'État qui drainent les coffres publics et la flambée de l'inflation.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
5 pays africains sont qualifiés pour le dernier tour des éliminatoires du Mondial féminin.
Oui, le Cameroun, le Ghana, le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Ouganda ont arraché leur billet pour le dernier tour du Mondial féminin des moins de 17 ans. En 2020, à Yaoundé, les Lions se sont montrés trop fortes face à Sao Tomé et Principe, battus 6-0 au retour, 10-0 sur l'ensemble des deux rencontres. Pendant ce temps, à Accra, les Black Maiden du Ghana ont atomisé leurs homologues libériennes 8-0. Le Nigeria a poursuivi sa campagne florissante en battant la Guinée 5-1 à domicile après sa large victoire 6-1 au match aller à Conakry. À Johannesburg, battu 2-0 au match aller, l'Afrique du Sud a pris le dessus sur la Zambie 3-0.
La Confédération africaine de volley-ball a reporté toutes ses compétitions à une date ultérieure.
Il s'agit des coupes des clubs champions hommes et dames devant se tenir au Caire en avril. Les championnats d'Afrique de moins de 19 ans, hommes et dames de biche volée à Maputo et à Tunis en mai. Et puis la suite de la deuxième phase des éliminatoires des Jeux olympiques de biche volée. La Fédération internationale de handball a aussi décidé de reporter au mois de juin ces tournois qualificatifs aux Jeux olympiques. Le basketball n'est pas resté indifférent face au coronavirus. La FIBA a ainsi décidé de suspendre toutes ses compétitions internationales après que la NBA a suspendu son championnat et la Ligue africaine de basketball.
Le Maroc a aussi arrêté les matchs de football sur son territoire jusqu'à nouvel ordre.
L'annonce a été faite sur Twitter par la Fédération royale marocaine de football. Même décision au Sénégal où les autorités ont interdit toutes les manifestations publiques pour 30 jours. En Égypte, la Fédération a annoncé la suspension de tous les championnats pour 2 semaines.
Tous ces reports de compétition s'enchaînent sur le continent, mais certains pays ont joué le week-end écoulé.
C'est le cas de la République démocratique du Congo, dont le championnat est suspendu pour une durée de 30 jours à partir de ce lundi. Mais avant cette décision, hier, 3 matchs ont eu lieu et l'AS Vita Club s'est offert le derby de Kinshasa 2-0 face à Renaissance du Congo. L'équipe entraînée par Florent Ibengue est classée deuxième avec 48 points. L'AS Manima Union, vainqueur de Lubumbashi Sport, est troisième. Le tout-puissant Mazembe occupe la tête du classement avec 53 points.
Et en Tunisie, en Côte d'Ivoire, on jouait la Coupe nationale.
16e de finale en Côte d'Ivoire et l'Africa Sport d'Abidjan, le FC San Pedro et la FAD de Djekanou ont validé leur billet pour les 8e de finale. En revanche, la SEC Mimosa prend la porte puisque battue 2-1 par le RC d'Abidjan, fait de parcours également pour les militaires de la SOA, éliminé au tir au but par l'Asie d'Abengourou. 8e de finale en Tunisie et qualification de l'Espérance de Tunis aux dépens de l'Avenir Sport de la Marsa, 2-0. Ça passe aussi pour le club sportif sfaxien, vainqueur 2-0 de l'AS Gerba. Par contre, le club africain s'est fait éliminer par l'US Monasti.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant les dossiers du jour. Au Sénégal, où 26 cas de Covid-19 ont été confirmés, le président Macky Sall a annoncé des mesures préventives pour limiter la propagation du virus. La plus attendue était l'interdiction pendant un mois des rassemblements et manifestations. Les célébrations religieuses qui devaient accueillir des centaines de milliers de personnes doivent ainsi être annulées. Cette décision rassure globalement les populations, même si certains émettent des réserves. Un reportage de notre correspondant à Dakar, Seydina Abagay.
Au centre des attentions, depuis que le coronavirus a atteint la grande cité religieuse de Touba, les chefs religieux de cette ville et du Sénégal ont tour à tour décidé de reporter ou d'annuler les célébrations. Une décision prise pour se conformer aux directives étatiques, mais pour Abel Sagna, le fond du problème demeure le mode de vie des Sénégalais.
Notre culture favorise la vitesse de propagation de la maladie. Regardons comment nous vivons. Nous nous saluons par la main, nous mangeons ensemble, nous buvons ensemble le thé et nous, on n'est pas quasiment tout le temps ensemble. Nous sommes les plus sociables, je peux dire, de l'humanité. C'est très favorable à la propagation de la maladie.
Même son de cloche du côté de Yaya Junior Djiba qui estime que l'État doit aller au-delà de la sensibilisation par les médias. Pour ce jeune originaire du Sud, les autorités doivent prendre des mesures pratiques pour que la population intègre certaines précautions. Yaya suggère également que le contrôle ne se limite pas aux frontières, mais qu'il touche aussi les voyages à l'intérieur du pays.
Ah, tout récemment, je suis parti en Casamance. J'ai vu qu'il n'y avait pas de contrôle. À l'aller comme au retour, il n'y avait pas de contrôle. Peut-être que ce sont les gardiens qui se sont un peu organisés et nous demandaient de nous laver les mains exclus, mais du côté du Sénégal, il n'y a rien. Alors qu'il y avait le coronavirus au Sénégal.
Les avis de ces citoyens sont parfaitement en accord avec l'analyse du docteur Babou Moudou Ndiaye qui affirme que l'État doit anticiper et accentuer les efforts de sensibilisation envers la population afin de limiter les risques.
Mais ce sont des décisions qu'il fallait prendre depuis. Ensuite, voilà, vulgariser l'information pour que la population sache les mesures préventives. Pas seulement se laver les mains, même les portables, les télécommandes et tout. Voilà. Donc trop en faire, même c'est mieux que de ne pas en faire.
Pour prendre les devants face à certaines situations, l'État a d'ailleurs décidé de partir en croisade contre les fake news. Le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a annoncé des poursuites judiciaires contre ceux qui sapent l'effort de lutte nationale contre le coronavirus.
Depuis quelques jours, des vidéos circulant dans les réseaux sociaux remettent en cause la présence de cas de Covid-19 au Sénégal. Je regrette également qu'en cette période où la nation a besoin de la conjonction des forces de ses fils et de ses filles, certains individus aient l'outrecuidance de diffuser des informations mensongères. Le Comité national de gestion des épidémies saisira le procureur de la République pour la prise en charge judiciaire de tels faits considérés comme une entrave à la réponse nationale contre le Covid-19.
Outre l'interdiction de rassemblement dans les lieux clos ou ouverts, le chef de l'État a entre autres annoncé la fermeture des crèches, écoles et universités pour 3 semaines, l'interdiction des bateaux de croisière, le renforcement des contrôles aux frontières et des moyens sanitaires, l'acquisition de matériels médicaux spécifiques, le déploiement d'hôpitaux mobiles par l'armée et l'annulation de la célébration de la fête de l'indépendance. Le président Sall a aussi exprimé sa solidarité aux Sénégalais de la diaspora tout en leur demandant de respecter les mesures sanitaire en vigueur. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Au Niger, au moins 3 personnes sont mortes hier à Niamey dans un incendie en marge d'une manifestation. Cette manifestation avait pour but d'exiger du gouvernement la publication d'un rapport d'audit du ministère de la Défense et de sa transmission à la justice. Plusieurs manifestants ont été interpellés, dont des leaders de la société civile. Le point avec notre correspondant Abdoul Razak Idrissa.
Le bilan et l'origine de cet incendie faisaient encore débat dimanche jusqu'à la visite sur les lieux du ministre de l'Intérieur Mohamed Bazoum.
Les dégâts qui ont été provoqués par l'incendie qui s'est passé ici, qui a malheureusement provoqué la mort de 3 personnes, 2 personnes à l'intérieur de l'autre côté, dans une boutique apparemment, qui ont été piégées par les feux, et une personne ici dans un atelier qui aurait pu s'en sortir malheureusement. Alors je ne sais pas qui a pu provoquer ce feu. Nous avons ouvert une enquête, la police va conduire l'enquête. L'enquête de la police va reconstituer les événements et il sera possible certainement à la fin de dire exactement ce qui s'est passé.
Dans les environs, des curieux disent pourtant que le feu a été déclenché après qu'une grenade lacrymogène ait touché le toit d'une des boutiques de cette rue marchande qui jouxte le principal centre commercial de la ville de Niamey.
C'est la police qui a mis les feux. Pourquoi la police a mis la ville? On frappait lacrymogène sur nous. Lacrymogène est parti tomber sur un hangar. Et sur le hangar, il y a tout. Voilà, moi j'ai entendu 6 mois.
C'est la police qui a lancé des projectiles sur un toit et il y a le feu. C'est une colère et ça va se continuer. C'est comme c'est le printemps du Niger qui commence. On a été séquestrés par le gouvernement. On n'a rien, on déguerpit les gens. Nos enfants ne partent pas à l'école. Il y a beaucoup de problèmes qui est là au Niger qu'on doit s'y unir. Nous, on n'a pas un coronavirus, mais on souffre.
Pendant ce temps, la police était à la chasse aux organisateurs de la manifestation. Tour à tour, Halidou Moukela, Moussa Tiangari, Nuhu Arzika et bien d'autres sont interpellés et gardés dans les locaux de la police judiciaire.
On ne sait pas de quoi on les accuse. Tout compte fait, nous avons déposé une déclaration de manif en bonne et due forme et nous n'avons pas reçu une notification d'interdiction de certaines manifestations. C'est pour ça que les gens sont sortis effectivement massivement et voilà, on a trouvé des camarades sur place, on les a ramassés pour les amener je ne sais où, mais quand même nous resterons vigilants, c'est la résistance qui vient de commencer.
L'appel à cette manifestation avait été lancé depuis quelques jours. La quasi-totalité des forces sociales et politiques de l'opposition y ont adhéré. Vendredi, le gouvernement publie un communiqué et annonce qu'à raison de la menace de la maladie du coronavirus, tout rassemblement de plus de 1000 personnes est interdit dans tout le pays jusqu'à nouvel ordre. Les organisateurs décident de faire fi de cette annonce et appellent les populations à braver l'interdiction. Dimanche matin, les principales artères qui mènent au lieu du meeting ont été barricadées par un impressionnant dispositif sécuritaire. À quelques endroits, des échauffourées ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre. Abdoul Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
En tant que nouveauté en Afrique, la discipline du cirque est en plein essor sur le continent. La 3e édition du Festival du cirque d'Abidjan vient d'avoir lieu. Des représentations gratuites ont été organisées à cette occasion dans les rues, mais aussi dans les salles de spectacle de la capitale ivoirienne. Dilidiko raconte.
La Côte d'Ivoire a récemment tenu la 3e édition de Fabrique culturelle qui a organisé la RICA, Rencontre interculturelle du cirque d'Abidjan, un événement d'une semaine dont l'objectif est de faire découvrir le cirque traditionnel dans les rues d'Abidjan. Pour Chantal Djedjé, directrice du festival, l'art de la rue est déjà très présent en Côte d'Ivoire et le cirque s'inscrit justement dans ce cadre.
Je pense que ça va se développer de plus en plus parce que c'est de plus en plus varié. Et même en Côte d'Ivoire, ne serait-ce que tout ce qui est coupé décalé, tout ce qui est hip-hop, ce sont des arts de la rue. Le zouglou, ce sont des arts de la rue. Donc pour moi, c'est un grand avenir en Côte d'Ivoire.
Pour la première fois depuis le début du festival, il y a 3 ans, un spectacle d'acrobatie équestre a été inclus dans le programme. Du quartier de Cocody à celui d'Abobo, les spectateurs étaient tous ravis de voir les pirouettes sur les chevaux. Un plaisir pour les enfants, mais également pour les parents comme Aubin et Akissi.
Je pense que c'est un spectacle vraiment féerique.
C'est la première fois, on a l'habitude de voir du cirque, mais c'est à la télévision. C'est la première fois de voir depuis près, donc vraiment, nous avons beaucoup aimé.
Voilà. On n'arrive pas à se déplacer, et si aujourd'hui ces acteurs viennent vers nous, c'est vraiment une joie pour nous. En tant qu'enseignante et en même temps parent d'élèves, vraiment je suis heureuse de voir les enfants très heureux d'accueillir le cirque. Vraiment, c'est pour vous dire que nous l'attendions. Voilà, nous l'attendions.
Pour les plus fortunés, plusieurs représentations ont eu lieu en salle avec des troupes venues de toute l'Afrique subsaharienne, notamment du Burkina Faso, du Bénin, du Gabon, de la Côte d'Ivoire, mais aussi d'Europe.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24 heures sur 24.
Malgré l'annulation de la plupart des événements politiques en Amérique en raison du coronavirus, 4 États organisent des primaires mardi qui pourraient pratiquement éliminer tout doute quant au candidat démocrate qui affrontera le président Donald Trump en novembre. Comme le rapporte Kane Farabo de VOA à Chicago, l'ancien vice-président Joe Biden devrait renforcer son avance sur le sénateur du Vermont Bernie Sanders lors des votes en Floride, Ohio, Illinois et Arizona. Le récit est de Salwa Jafari.
Par un après-midi ensoleillé de mars, Bernie Sanders a profité du soutien apparent de milliers de supporters réunis au Grand Park de Chicago.
Merci Chicago, je ne vois même pas où cette foule se termine, vous êtes si nombreux.
À cause du Covid-19, il s'agit là peut-être du dernier rassemblement public de Sanders. Une série de pertes aux primaires a meurtri sa campagne, mais n'a pas sapé l'enthousiasme de la foule. Sabrina Honak est infirmière.
Je me sens très bien avec le taux de participation ici aujourd'hui.
Mais la participation aux urnes a favorisé Biden récemment. Déjà, l'ancien vice-président tente de rallier les partisans de son adversaire.
Et je tiens à remercier Bernie Sanders et ses partisans pour leur énergie inlassable et leur passion. Nous partageons un objectif commun et ensemble, nous vaincrons Donald Trump.
Mais Sanders n'a pas abandonné.
Et si nous voulons battre Trump, nous avons besoin de la plus grande participation électorale de l'histoire de l'Amérique. Et cette participation me semble évidente à Grant Park aujourd'hui.
Les sondages montrent que Sanders est le grand favori des électeurs âgés de 18 à 29 ans. Mais les jeunes ont tendance à ne pas se présenter en grand nombre dans les bureaux de vote.
Je pense que l'apathie a beaucoup à voir avec le vote. Beaucoup de jeunes pensent que rien ne fera une différence.
Julie Weber est professeure à l'Illinois State University.
En 2018, les gens ont été surpris. Je pense qu'un jeune sur 5 à l'échelle nationale a voté, ce qui était sans précédent. Mais jusqu'à présent, le camp de Sanders a été assez déçu par le taux de participation des jeunes.
Les données des sondages montrent également que de nombreux électeurs considèrent que Biden est mieux placé pour vaincre Donald Trump, ce que de nombreux démocrates privilégient par rapport à des positions politiques spécifiques sur des questions telles que la réforme des soins de la santé et le fait de rendre l'université abordable. Certains partisans de Sanders reconnaissent que les statistiques favorisent fortement Biden. Mike Camp-Lacin est supporter de Sanders.
Nous ne pouvons pas dorer la pilule. Le Super Tuesday ne s'est pas déroulé comme le souhaitaient de nombreux supporters de Sanders.
Les sondages montrent Sanders derrière Biden dans les 4 États qui votent mardi. Sa campagne a désespérément besoin d'une victoire surprise ou deux pour être considérée comme viable à l'avenir. Biden, quant à lui, concentre de plus en plus sa puissance de feu sur le président Donald Trump, critiquant sa réponse à la crise du Covid-19.
Ce virus a mis à nu les graves lacunes de l'administration actuelle. Les craintes du public sont aggravées par un manque de confiance omniprésent en ce président et notre capacité à conduire une réponse mondiale est dramatiquement, considérablement réduite par les dommages que Trump a causés à notre crédibilité et nos relations dans le monde.
Si Sanders échoue, Sabrina dit qu'elle soutiendra Biden.
Parce que tout est mieux que Donald Trump à ce stade.
Les rassemblements publics massifs pourraient être une chose du passé pour le reste de la campagne, les candidats préférant communiquer avec les supporters en ligne plutôt qu'en personne.
C'est la fin de cette édition. À la technique, c'était Michel Joseph. À la présentation, Nathalie Barge. On se retrouve tout de suite pour un rappel des grands titres de l'actualité.